Catherine le matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève. À 9h23, avant d'aller le rejoindre, donc dans les dernières heures, ce qu'on apprenait du côté de la France, c'est que les autorités ont lancé une vaste opération policière contre la mouvance islamiste en lien avec la décapitation vendredi d'un professeur d'histoire-géographie, un homme apprécié dans sa communauté de ses étudiants. L'assassinat de Samuel Paty qui a provoqué un électrochoc en France. On l'a un peu abordé un petit peu plus tôt ce matin avec une trifluvienne qui habite là-bas, qui nous a dressé un peu un bilan de ce qui se passe. On va le refaire avec un homme qui est politologue, chroniqueur, écrivain, également sociologue, Guillaume Bigot est notre invité. Bonjour, M. Bigot.
Bonjour, Catherine.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Donc, je le disais, est-ce que le terme électrochoc, est-ce qu'il est bien choisi dans le cas actuel?
Il est parfaitement bien choisi si on ajoute que ce n'est pas le premier. C'est une série d'électrochocs en réalité, depuis 2015.
OK. On a vu les manifestations en fin de semaine de solidarité envers les événements. Parlez-nous un peu de ce qui se passe actuellement. Jusqu'à quel point ça vient ébranler un peu là, toute la sphère politique là-bas?
C'est vrai, vous avez raison d'utiliser ce terme d'ébranlement. Il y a quelque chose qui est lié aux fondations de la France, finalement, en tout cas de la République française, qui est ébranlé et c'est très profond. En fait, c'est pas nouveau, le djihadisme frappe beaucoup de pays, et pas que des pays musulmans. Ensuite, c'est pas la première fois que nous sommes frappés en France. Mm-hmm. Ça avait démarré en 1995, on avait déjà, dès 1995, le basculement de l'Algérie vers le djihadisme le plus sanguinaire avait quand même provoqué des morts et des attentats chez nous. Mais enfin, on avait un peu oublié ça. Et puis, après le 11 septembre, il y a eu beaucoup de questions. Est-ce qu'on va, nous aussi, finalement, y avoir droit? Est-ce qu'on va avoir, nous aussi, des attentats? Et les gens étaient incrédules. Bon, ça a éclaté un peu à bas bruit, mais vraiment en 2015. Et puis là, ce qui est vraiment nouveau, me semble-t-il, c'est que les djihadistes, on les connaît. On sait de quoi ils sont capables. Ce sont des monstres sanguinaires. On sait aussi que les islamistes... Beaucoup ne voulaient pas le voir, mais on sait que les islamistes, en fait, ont le même agenda, simplement ils n'ont pas les mêmes méthodes. Donc ce n'est pas tellement nouveau non plus. En revanche, ce qui est complètement nouveau, ce qui est mis au jour, c'est la complicité d'une partie de la classe politique, voire de la société française dans son ensemble. Et ça, c'est nouveau.
OK. Dites-moi, si on parle un petit peu de ce qui s'est passé, du jeune russe tchétchène de 18 ans là, qui avait perpétré la décapitation, lui a été abattu. Les gens, actuellement, il y a des gens en garde à vue. Quels sont les liens qu'on est déjà en train d'établir entre les gens en garde à vue et celui qui a perpétré cet attentat-là?
D'abord, il peut y avoir deux types de liens, parce que il y a, encore une fois, répétons-le, la question du djihad, donc des gens qui passent à l'acte. Donc s'ils passent à l'acte, ils franchissent la violation de la loi pénale, hein, et ils doivent en réponse, et ce sont des criminels. Et donc il y a un chef de complicité, une accusation de complicité pour ce crime. Donc il y a des gens qui peuvent être dans une cellule, on ne le sait pas vraiment, c'est possible, l'idée d'un loup solitaire, c'est l'expression qui est consacrée, en tout cas en France, telle que vous l'utilisez aussi, c'est cette idée qu'il y aurait comme ça une génération spontanée, que les gens seraient isolés. Ils sont tous isolés. C'est sûr que c'est une idéologie en plus extrêmement groupiste, extrêmement collective. Ils ont une action collective, un agenda collectif. Donc ils ne sont jamais des loups solitaires. Donc là, il y a peut-être des gens qui ont coordonné l'action elle-même terroriste et djihadiste. Mais il y a un autre phénomène, c'est l'islamisme. C'est-à-dire l'idéologie derrière qui, elle, agit de manière beaucoup plus sournoise parce qu'en fait, elle reste à l'intérieur des lois. Alors, elle agit sous forme d'entrisme, d'influence, et là, c'est ce qu'on a vu. Et donc, dans les 11 personnes qui sont mises en examen, je ne saurais vous dire, mais j'espère qu'il y a, qu'il y a déjà aussi un monsieur qui a fait une vidéo, qui est un agitateur, un propagandiste de l'islam radical, et qui s'était déjà fait connaître en menaçant des imams en France qui sont des imams libéraux, en exerçant une pression sur un proviseur dans une école à Saint-Ouen, et c'est quelqu'un de bien connu, c'est même quelqu'un qui est fiché par le renseignement français, qui est suivi de près. Pour autant, il n'est pas djihadiste lui-même, mais c'est quelqu'un qui diffuse cette idéologie. Et enfin, là, ça ne sera pas des gens qui seront mis en examen, Mais ce qui est très incroyable, et c'est là où, où l'ébranlement est très profond, c'est l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, c'est que la proviseur, la personne qui est en charge de ce, de cette école a reçu ce monsieur. Autrement dit, des parents se sont plaints parce que on montrait des caricatures en classe. C'est pas aberrant que l'école les reçoive, mais l'école devrait les recevoir pour leur expliquer que tels sont nos principes. Et que, par définition, des principes ou des valeurs se reconnaissent au fait qu'on ne les discute pas. Donc les gens qui ne sont pas d'accord avec ces principes et ces valeurs, en réalité, n'ont rien à faire en France. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a donc eu de la part de l'autorité scolaire, et c'est une école publique, donc c'est l'autorité de l'État, une volonté d'accommodement, une volonté d'apaisement. C'est mimique, en fait. Hein. C'est l'attitude de la diplomatie occidentale à l'égard du terre. C'est exactement le même mécanisme d'accommodement. On va être gentil avec les méchants, et puis comme ça, ça va désarmer leur agressivité.
Monsieur Bigot, j'ai discuté avec une trifluvienne, une femme de chez nous qui habite en France depuis quelques années. Elle nous disait, bon, puis vous allez être le meilleur pour nous confirmer ça. Depuis des années, en France, des experts se prononcent sur le radicalisme. C'est pas nouveau. En quoi, bon, on a vu ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, il y a plusieurs exemples comme ça. En quoi ce qui se passe actuellement pourrait faire bouger les choses plus que ce qui a été fait dans les dernières années? Pensez-vous qu'il y a... Il y a quelque chose... Est-ce que ce dossier-là va amener une piste de réflexion différente?
Sur le plan, c'est déjà le cas. On peut le percevoir sur un plan politique. Je vais essayer de donner quelques exemples. Sur le plan de la perception, de l'analyse, de la conscience, de la prise de conscience. Il y a des verrous ont sauté, des verrous mentaux ont sauté. Mais la question, en fait, que tous les Français se posent, c'est celle des actes. Parce que, d'une certaine façon, il y a eu trop de mots et trop de morts, il y a eu trop d'analyses, trop de dissections et d'explications du problème. On le connaît jamais suffisamment, mais on le connaît bien, ce problème. Et d'autres pays, d'ailleurs, ont payé pour nous, l'Algérie dans les années 90. Donc on connaît leur méthode. C'est pas tellement nouveau, en réalité. Et ce qui a sauté comme verrou, je pense que c'est d'abord le terme d'islamophobie. C'est-à-dire, l'islamophobie, c'est vraiment un racisme imaginaire. Pourquoi c'est un racisme imaginaire? Premièrement, parce qu'il faut le dire quand même, l'islam, ce n'est pas une race, c'est une religion. Deuxièmement, parce que l'islamophobie, c'est une polysémique. L'islamophobie, ça veut dire en grec, comme vous savez, la peur. Bon, donc, avoir peur de l'islam et d'une religion qui décapite si on discute de ses dogmes, bah, c'est comme tout, somme toute assez logique. Mais non, il y a une confusion qui est entretenue volontairement par les islamistes, bien sûr, qui consiste à dire que ceux qui se plaignent de l'islam, ceux qui critiquent l'islam, détestent l'islam. Vous voyez, entre la critique de l'islam, la peur de l'islam et la détestation de l'islam, ce sont des catégories différentes. Or, l'affaire de Charlie, au fond, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de manière, elle dit très simplement qu'en France, il y a un droit de blasphème parce que la liberté est conçue comme étant un absolu et quelque chose qui nous rassemble tous. Liberté, égalité, fraternité, donc ça ne se discute pas. Mais cet absolu, en fait, ça nous oblige maintenant à le considérer comme quelque chose de sacré. Ce qui est sacré, c'est ce dont on hérite de nos pères, ce qu'on ne discute pas. Mais ce qui est sacré aussi, et c'est pour ça que ça a trait avec du religieux finalement, même si on ne parle pas de religion mais de politique, de valeurs politiques, du fond de la République française et la France, c'est l'idée que quand c'est sacré, on peut donner sa vie et on peut tuer. Le sacré ne se discute pas, on n'y touche pas. Or en France, ce qui est sacré, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais pour les islamistes, il n'y a pas de liberté, il y a la conception de l'islam comme une soumission. D'ailleurs, en arabe, islam veut dire soumission. Deuxièmement, il n'y a pas d'égalité parce qu'il y a la femme est, par exemple, inférieure à l'homme. C'est écrit en toutes lettres. Et troisièmement, il n'y a pas de fraternité. Il y a une fraternité très importante pour les islamistes, mais entre les musulmans. Il ne peut pas y avoir de fraternité avec les non-musulmans. Donc, vous voyez bien qu'il y a une contradiction très forte, non pas entre l'islam, mais entre l'islamisme et la France. Et je pense que l'islamisme a pu progresser dans un monde anglo-saxon ou libéral, au sens où il y a une extrême tolérance de free speech dans les pays anglo-saxons, par exemple. Et puis l'idée, finalement, que dans certains pays, il y a beaucoup de liberté, mais on peut concevoir une certaine forme d'inégalité. En France, le voile, par exemple, islamique agresse, parce qu'il envoie un message qui consiste à dire, finalement, nos femmes sont nos femmes, vous ne pouvez pas les épouser. Un Anglais n'épouse pas des Pakistanaises. Un Français épouse des Algériennes ou des Tunisiennes, et en sens inverse d'ailleurs. Donc il y a une exogamie naturelle à la France, et donc ça ne passe pas. Donc je pense que la France va devenir le tombeau de l'islamisme en fait.
Monsieur Bigot, j'aurais aimé poursuivre la conversation. Très intéressant. Merci d'avoir partagé ça. Merci avec nous, vos connaissances aussi, puis au plaisir de se rejaser bientôt.
Merci infiniment.
Merci. Au revoir. Guillaume Bigot, qui est un politologue, écrivain, sociologue, analyste de l'actualité. C'est intéressant.